Les invités du podcast Diptyque sont artistes, galeristes, curateurs, conservateurs de musées. Certains d'entre eux me sont très familiers parce que nos routes se croisent depuis la création du magazine en 2009. D'autres me sont inconnus. Sur le mode de la conversation, j'essaie de capter ce qui fait la particularité de mon invité et je vous offre ainsi avec ce podcast un portail intime et unique sur les acteurs de l'art contemporain arabe et africain. Le podcast Diptyque vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Rodolphe Blavy. En marge de son travail au sein du FMI, Rodolphe Blavy est un collectionneur militant. Depuis une dizaine d'années, il collectionne de l'art contemporain africain en lien avec son enfance passée entre Dakar et Abidjan. Sa collection porte le titre Margot et Raphaël Blavy, du nom de ses enfants. Sa collection soutient les artistes engagés émergents. C'est une voie d'un dialogue social nouveau. En 2018, Rodolphe Blavy a rejoint le groupe d'acquisition d'art contemporain du Centre Pompidou et il a fondé le Comité Afrique du musée. Avec Rodolphe, nous nous sommes connus à la Biennale de Venise, ça devait être en 2017, et depuis nos routes se croisent souvent lors des visites, que ce soit à Dakar, Marrakech, ou Londres, ou Paris. J'aime particulièrement visiter les biennales et les foires en compagnie d'un collectionneur comme Rodolphe Blavy, parce que l'œil du collectionneur a quelque chose de très particulier. Il y a une concision, une précision, une qualité d'information chez celui qui achète que vous ne retrouvez pas chez l'amateur qui n'achète pas. Bien qu'il soit très précis sur les questions de prix et valeur, il me semble aussi que Rodolphe Blavy ne soit pas un de ces collectionneurs qui achètent des œuvres d'art comme des valeurs en bourse pour les enfermer et spéculer sur la hausse des prix. Il est avant tout un amateur au sens plein du mot qui vit et vibre avec ses tableaux et les choisit avec tous ses sens, avec son corps et sa tête. Rodolphe, bonjour et merci d'être l'invité du podcast Diptyque.
Bonjour Myriam, enchanté d'être avec vous.
Alors j'ai récemment eu la chance d'assister à une très belle exposition de la collection de Rodolphe Blavy, Africans Everywhere, dont Rodolphe nous parlera beaucoup aujourd'hui. Et pour moi, cette exposition marque un tournant dans sa collection, parce que d'une activité très privée et très personnelle, cette collection a gagné en visibilité et désormais elle se dévoile au public. Ça va certainement changer des choses. Mais commençons par le commencement. Et j'aimerais que cette conversation puisse servir un peu de guide possible pour nos auditeurs, jeunes ou moins jeunes, qui nous écoutent et qui suivent le podcast Diptyque et pourraient avoir le projet de démarrer une collection sans savoir toujours par où commencer. Donc, sur la question du sujet, du budget, de la technique ou de la zone géographique, par où est-ce que tu as commencé, toi, Rodolphe ?
Alors, je crois que ce qui est vraiment intéressant dans la constitution, enfin, je pense qu'il y a plusieurs questions qui naissent immédiatement suite à ton introduction et à ta question. La première est celle de la définition de ce qu'est être un collectionneur, parce que je dirais que par le passé, j'achetais des œuvres, mais acheter des œuvres, ça ne fait pas un collectionneur. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui a une démarche active, et d'ailleurs cette démarche peut être totalement modeste, elle n'est pas du tout en lien avec les moyens mis dans la constitution de la collection, mais elle est liée à la construction et quelque part l'apport d'une vision très personnelle, qui est la vision du collectionneur, dans cette démarche d'acquisition. Et alors pour moi, pour répondre plus directement à ta question, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quand même une attirance au départ très naturelle entre deux choses. L'une était le monde de l'art, que je fréquentais de manière très régulière, mais aussi ce monde africain où j'ai grandi. Je suis arrivé en France à 17 ans, après avoir passé toute mon enfance au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et donc, de croiser ces deux mondes était quelque chose qui m'intéressait. Et au départ, j'ai voulu constituer cette collection pour mes enfants, Margot et Raphaël. Mais je pensais, voilà, enfin, ma démarche était plutôt une démarche d'achat coup de cœur. C'est-à-dire que j'achetais quelques œuvres par an qui vraiment me séduisaient. Et puis, au fur et à mesure de la constitution, au fur et à mesure des achats, je me suis rendu compte qu'en fait, derrière cela, il y avait quand même un fil rouge directeur important, qui était celui de l'engagement social, politique, écologique, l'engagement sur les questions du genre. En fait, l'engagement que je trouvais chez tous les artistes africains, de manière assez générale, Et finalement, c'est ça qui a donné tout son sens à ma démarche, donc j'appellerais donc une vraie démarche de collectionneur.
Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que j'imagine qu'au début, quand tu parles de cette thématique de l'engagement qui est très, très explicite dans ta collection, que je commence à bien connaître, mais tu as l'air de dire que c'est pas au début, c'est pas forcément ce qui t'anime, et tu te rends compte au fur et à mesure que tu commences à acquérir des œuvres que c'est le fil rouge. Donc il se peut que le fil rouge apparaisse au fur et à mesure des œuvres qui nous ont interpellés. C'est ce que tu as l'air de dire.
Tout à fait. Il y a plusieurs choses, en fait, même qui apparaissent au cours de cette démarche. Alors, la première, évidemment, est le contenu, les œuvres vers lesquelles on a tendance à aller. Et au départ, avec un œil relativement neuf, disons, on va aller peut-être sur des œuvres plus faciles, qui sont d'un sens plus immédiat. Et puis, cette démarche va s'affiner au cours des années, à la fois parce que on parcourt beaucoup ce domaine créatif, donc on est confronté à beaucoup d'œuvres et donc l'œil s'affine forcément, aussi par les rencontres que l'on fait, des rencontres avec les artistes, des rencontres avec les galeristes, des rencontres avec des personnes comme toi, Myriam, qui nous guident beaucoup sur cette scène africaine. Et à la fois, donc ça s'affine sur toute cette question contenu, mais ça va aussi s'affiner, par exemple, sur la question des méthodes employées. Par exemple, au départ, j'achetais peut-être plus de photographies, qui me semble un point d'entrée relativement facile dans le monde de l'art. Et puis après, je me suis dirigé plus vers la figuration, plus vers des œuvres abstraites. Et donc, il y a quand même un vrai cheminement qui est aussi un cheminement qui se nourrit hein, du marché de l'art également, puisque on a, et ça a été vraiment le cas sur l'art africain contemporain, des sortes de vagues, des cycles de création qui sont très intéressants également. Donc voilà, donc c'est toute la démarche, c'est quand même une démarche dynamique qui se nourrit constamment de ce que l'on peut observer autour de soi. Avec de nombreuses heures à arpenter tous ces
Oui.
lieux.
Alors justement, comme on se connaît bien, et ce qui m'a tout de suite frappé chez toi, et on en a beaucoup discuté, c'est à quel point tu es informé. C'est-à-dire, pour tous ceux qui pensent que collectionner de l'art, c'est se balader, se dire, bah, tiens, j'aime bien ci, puis je prendrai bien ça, c'est absolument pas le cas pour toi. Et je présume que ceux qui entament une collection se mettent très rapidement à le faire de manière très, très professionnelle. Je dis ça au sens. C'est une démarche consciente, très documentée, très informée. Tu sais tout de l'art contemporain africain. Je pense qu'il n'y a pas une expo qui t'échappe. Il n'y a pas une biennale, évidemment. Tu es toujours, on en discute et souvent tu es au courant d'ailleurs avant moi. J'aimerais bien que tu expliques aux auditeurs, dans ta pratique, est-ce que, évidemment, la science précède l'action ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que tu te balades, tu vois un artiste dans un lieu où tu savais que tu trouverais des tas de choses, hein, mais tu vois par exemple tel artiste, tu te dis, ah, ça, j'ai un coup de cœur, j'achète, et ensuite tu te documentes sur la carrière de cet artiste, ou est-ce qu'en général, quand tu vas dans une foire, une biennale, une expo, tu vas déjà avec une intention d'achat? J'aimerais bien savoir, est-ce que la science précède l'action? Comment ça se passe? Et quels sont tes
Et
canaux
merci pour cette
d'investissement?
question. Merci pour cette question, Myriam. Effectivement, c'est une question primordiale. Et je dirais, il y a un monde idéal. Et le monde idéal, c'est celui, pour moi, dans lequel je découvrirai des œuvres, je rencontrerai les artistes, je prendrai du temps à comprendre ce qui les motive. Et pour moi, je dirais un des vecteurs principaux dans le choix d'une œuvre, c'est de savoir que derrière, il y a un artiste qui est dans une quête permanente d'apporter quelque chose à son sujet, d'apporter quelque chose à l'histoire de l'art. Et cette quête, on peut la retrouver d'ailleurs chez des artistes qui sont totalement autodidactes, comme chez des artistes qui ont fait des écoles d'art très prestigieuses, etc. Mais c'est quelque chose de vraiment inhérent à la personnalité de l'artiste. Donc ça, ce serait le monde idéal, et donc après une certaine démarche, de pouvoir se positionner sur certaines œuvres d'art et d'avoir accès à des pièces importantes de ces artistes. La réalité est un peu différente parce que, et c'est notamment ce qu'on a observé, je dirais, dans les 7-10 dernières années, il y avait un tel engouement sur le marché de l'art africain que parfois, on se fait aussi prendre au jeu ou prendre au piège de la frénésie qui peut entourer certaines tendances sur le marché et de se dire ah, mais il faut absolument que je saisisse cet artiste avant qu'il devienne trop cher, avant qu'il soit inaccessible, avant que la liste d'attente soit trop longue et que je sois trop relégué sur cette liste d'attente. Et donc, ce monde idéal de recherche, de science vraiment avant le coup de cœur, peut passer un peu à la trappe. Par contre, et c'est quelque chose que tu notais dans ta question, je pense que à la base, il y a quand même la nécessité que l'œuvre soit un coup de cœur. Et ce qui va faire un coup de cœur, ça peut être un coup de cœur purement esthétique, purement émotionnel, une réaction face à l'œuvre. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte avec le temps. Pour moi, les œuvres qui vont vraiment me parler sont les œuvres avec lesquelles je vais pouvoir vivre pendant des années sans jamais me lasser. Et donc, ce sont en général des œuvres que je peux regarder en tant que spectateur extérieur et constamment me poser des questions et voyager à travers l'œuvre. Donc, l'artiste, au lieu de me donner un message très immédiat, très clair et très présenté de manière très directe, me prend par la main, me fait rentrer dans l'œuvre et me pose des questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, fait la force de l'œuvre.
Mais je pense qu'en plus, je peux vraiment témoigner pour avoir été souvent à tes côtés dans la visite, par exemple, de la 154, mais aussi de la Biennale de Dakar. J'ai assisté à quelques-uns de ces coups de cœur et c'est très intéressant de voir comment ça se passe. Et il y a quelque chose de très instinctif, vraiment très instinctif. Ça ressemble un peu à l'instinct aussi des sportifs qui font un peu des sports liés à la nature et qui repèrent tout de suite la bonne configuration, tu sais, le vent, je ne sais pas, le vent, la vague, le soleil, la météo, hop, c'est maintenant. Et j'ai remarqué ça chez toi, je l'ai vu, alors je ne me souviens plus alors, il me semble l'avoir noté pour... alors, c'était quel artiste? On avait vu ensemble, il me semble que c'était pour Justin Dingle. Et j'ai vu ça aussi, évidemment, pour El Hadj. Je pense que pour El Hadj, l'ainsi, j'ai vu se former cet instinct que vraiment on est en présence d'un grand peintre. Et d'ailleurs, c'était un des peintres que tu as mis en majesté dans ton exposition. Mais parlons d'Omar Ba. Parce que justement, pour Omar Ba, alors et là, autour d'Omar Ba, peut-être tu vas essayer de nous expliquer aussi, parce que voilà, il y a le fil de la collection et à l'intérieur d'une collection, il y a des méandres qui se forment. Et ces méandres, c'est quand on décide qu'on va rester, qu'on va tourner au cours d'un artiste et qu'on va rentrer dans le fond de la production d'un artiste, qu'on va acquérir un ensemble remarquable. Et là, ça commence à devenir très intéressant parce que c'est là que la collection... quitte la sphère de la petite collection individuelle à quelque chose qui presque devient une collection institutionnelle. Donc, Omar Ba, on en a vu de très beaux dans l'église du village Saint-Épin à l'occasion de ton exposition Africans Everywhere, dans le cadre de Archipel. J'aimerais que tu prennes cet exemple pour nous expliquer comment ça se passe quand on décide de s'arrêter à un moment donné sur un artiste. Tu peux aussi nous parler d'El Hadj et de la relation avec la galerie, tout ça, comment ça se passe.
Alors, peut-être avant de commencer directement sur un artiste en particulier, je dirais que dans la collection, pour revenir à cette constitution d'un ensemble significatif sur un artiste en particulier, il y a toujours cette tension entre la volonté d'avoir le maximum d'artistes, donc d'être représentatif d'un grand nombre de créateurs de cette scène artistique, et la volonté d'aller en profondeur sur certains artistes. Et à moins que le budget soit totalement infini, auquel cas on peut évidemment faire les deux, ce qui n'est malheureusement ou peut-être heureusement pas mon cas, ce qui me permet justement d'être plus exigeant avec mes choix, je suis souvent pris dans cette tension. Et dans le cas d'Omar Ba, c'est un artiste que j'ai découvert relativement au début de sa carrière. Pas totalement au début, puisqu'il était représenté par Anne de Villepoix au moment où je l'ai découvert. Il avait eu de nombreuses expositions, il avait été beaucoup présenté à la Biennale de Dakar. C'était déjà une figure importante de l'art africain contemporain. Mais donc, au moment où je le rencontre, il est chez Anne de Villepoix. Il fait des grandes œuvres sur carton, soit sur des boîtes de carton un peu en 3D, soit sous forme de grands tableaux. Et puis, je vais hésiter sur une œuvre magnifique qui était présentée par Anne de Villepoix. Je me souviens, c'était au Salon Drawing Now. Qui a ensuite été acheté par le Louvre à Abu Dhabi. J'hésite. Le temps que j'hésite, Omar Ba rentre chez Daniel Templon. Les prix montent de manière significative, multipliés par deux, puis multipliés par trois, et plus tard par dix. Et donc, quelque part, je me fais prendre un petit peu dans cette frénésie dont je parlais tout à l'heure, mais dans ce chemin-là, je réalise l'importance de l'artiste, je comprends la force de son travail, et donc la science commence à me rattraper, et je me dis que c'est quelque chose que c'est, voilà, qu'on a vraiment un artiste important et un artiste qui correspond beaucoup à ce que je recherche moi. Dans l'art contemporain. Et donc, assez rapidement, ensuite, j'ai acheté trois œuvres. Et ce sont trois œuvres qui sont très complémentaires. Elles ont le même fil rouge, qui est cette confrontation de l'artiste avec, disons, un peu une sociologie politique, le rôle de la société. Et de l'individu dans la société, son émancipation par rapport au pouvoir politique. Donc, il y a une grande œuvre sur carton qui s'appelle Archives nationales, qui est la représentation de la préservation de la mémoire d'un pays dans la représentation d'Omar Ba à travers le rôle des femmes. Il y a ensuite une œuvre plus petite sur papier. Qui décrit cette tension permanente de la jeunesse africaine à l'exode et le rôle négatif de certains pouvoirs politiques qui ne mettent pas en place les conditions pour retenir leur jeunesse et leur jeunesse si talentueuse dans les pays. Et enfin, il y a une troisième œuvre qui s'appelle Tame, qui est une grande œuvre sur toile qui va parler de la lutte des peuples face à l'oppression politique. Avec tout, dans tous ces tableaux, on retrouve toute une iconographie, des symboles très propres à Omar Ba. Et donc là, ce qui m'intéressait dans la constitution de ces trois œuvres est le fait que on a un panorama de sa création avec des œuvres sur des médiums différents, sur en général ce même sujet. Donc on a vraiment la patte de l'artiste, on est vraiment dans le travail emblématique d'Omar Ba, mais sous différentes visions de ce travail. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant.
Alors justement, concernant enfin, ce que tu dis à propos d'Omar Ba s'observe évidemment sur l'ensemble de ta collection et je dirais de plus en plus, hein, on en a souvent parlé. Tout à l'heure, tu disais que le fil rouge qui s'observe sur ta collection, c'est l'engagement. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les thématiques et tu pourras citer, j'essaierai de mettre des images pour accompagner l'épisode du podcast pour que les auditeurs puissent passer des images en même temps qu'ils écoutent. Est-ce que tu peux nous dérouler un petit peu les thématiques qui sont à l'œuvre dans ta collection? Et ensuite, on parlera plus précisément de l'expo où tu as choisi d'axer sur un genre particulier que le portrait. Mais quelles sont les thématiques? Et j'aimerais bien que tu me dises si finalement le reste de ton existence et notamment ta profession, est-ce que d'une certaine manière, la vue que tu as de la grande géopolitique influe aussi sur tes choix artistiques?
Merci.
C'est une question que je
Effectivement.
me posais, mais ça m'intéresse beaucoup.
Oui, non, mais pour moi, en plus, au-delà de ma collection, je pense que ce qui est quand même vraiment fascinant aujourd'hui avec la scène africaine contemporaine et ce qui lui donne sa grandeur et sa place dans l'histoire de l'art, c'est vraiment que de manière générale, et plus que d'autres scènes, parce qu'on retrouve cette même démarche sur d'autres scènes artistiques aujourd'hui, mais de manière plus anecdotique, de manière plus ponctuelle, là, j'ai l'impression que l'ensemble de la scène artistique africaine contemporaine se confronte aux grandes questions de notre société d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est un apport fondamental et c'est peut-être la chose la plus importante que l'on retiendra de ce moment d'histoire de l'art grâce aux artistes africains contemporains. Et donc, plus spécifiquement, ces questions, quelles sont-elles? Donc, je viens de parler de la question sociale et politique, donc avec Omar Ba, mais par exemple, il y a un artiste sud-africain, Kudzinei Shiurai, qui est très engagé politiquement avec un travail vidéo, un travail de peinture, un travail de dessin très fort sur, voilà, sur le rôle des sociétés dans l'Afrique australe et leur émancipation. Artiste qui vraiment pour lequel j'ai énormément d'estime. Donc toute cette question-là, la question politique notamment, et donc la question politique, elle est transverse puisqu'elle se pose à la fois sur la question anticoloniale, mais aussi sur la question antidictatoriale, avec beaucoup d'artistes s'engageant contre les dictatures du monde d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point assez évident. Deuxième point que l'on retrouve beaucoup et qui est d'ailleurs intéressant parce qu'on va le retrouver autant chez les artistes figuratifs que chez les artistes abstraits, est celui par exemple de l'engagement sur la question climatique et sur le refus que l'Afrique devienne un continent dépotoir et un peu le, comment dire, le réceptacle de la pollution du monde occidental. Et là, je pense aux œuvres phénoménales de Moffat Tadakhiwa, qui va récupérer des claviers d'ordinateur, qui va récupérer des bouteilles de, oui, même des brosses à dents, des capsules de bouteilles médicales, etc. Donc, il montre comment toute cette modernité qui existe en Occident, l'ordinateur, la médecine, etc., est envoyée en Afrique. D'une manière très, enfin, d'une manière poubelle, disons. Et il récupère tout cela pour en restituer une véritable beauté et s'opposer à toutes ces dynamiques. Et donc, je trouve que ces œuvres sont à la fois époustouflantes de beauté. Donc là, on est un petit peu dans le coup de cœur dont on pouvait parler tout à l'heure, mais aussi ont un sens très profond qui est très intéressant. D'autres dynamiques très importantes. Celle de l'affirmation de soi et l'affirmation de, je dirais, de certaines populations qui ont été trop longtemps rendues ou laissées invisibles. Donc, c'est à la fois dans le travail historique. Donc, je pense par exemple à Omar Victor Diop qui, avec sa très grande série Diaspora, avait vraiment remis à l'honneur certaines figures du passé colonial et anticolonial. Mais on peut penser aussi à Zanele Mioli, qui est évidemment très connue et qui a réalisé tous ces portraits très engagés d'une femme militante, lesbienne, noire, en Afrique du Sud. Donc voilà, elle est sur ces photos qui nous toisent de regards très directs. Elle va se noircir la peau, donc c'est vraiment une question sur la représentation de l'africanité dans sa force vitale, et en même temps de ne pas baisser le regard et d'aller de l'avant. Je pense aussi à une œuvre d'Atsupé que j'avais inclue dans l'exposition Africa Everywhere, qui représente cette femme tenant dans la main un napperon qui est en fait un vrai soleil et guidant le peuple vers l'avant. Et donc notamment
L'éclaireuse. Oui.
l'éclaireuse. Oui, l'éclaireuse, effectivement. Et là, je me rends compte que je cite un certain nombre de femmes et cette question de la femme est aussi une question importante. C'est l'affirmation du rôle de la femme dans nos sociétés qui a aussi été trop longtemps mis à l'écart. Et je pense que dans cette création africaine, la femme artiste était très importante, très présente aussi. presque que la question du genre ne se pose plus puisque les femmes sont aussi présentes que les hommes. Donc, c'est une question, voilà, une question importante.
Alors, on a abordé justement plusieurs, tu as parlé de plusieurs œuvres présentes dans l'expo. C'est le moment où justement on va parler de cette belle aventure qu'est l'expo Africans Everywhere. Pour moi, un collectionneur qui commence à partager sa passion et à montrer sa collection, mais d'une manière très au standard d'une exposition muséale, d'une expo en galerie, en musée ou dans une foire ou une biennale, ça devient autre chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es obligé d'examiner ta collection à la loupe, tu es obligé de regarder ton catalogue, de regarder de quoi il est constitué, de choisir un axe, une thématique, de construire une scénographie. C'est tout un travail, mais surtout, au cœur de cette pratique, il y a la question du partage et des publics. Et là, je dois dire que vraiment, c'est complexe. Hein. Ça a l'air simple de prendre ces œuvres et de les montrer aux gens, mais je sais que c'est excessivement complexe. Et j'aimerais que tu nous racontes cette aventure. C'est une belle aventure qui en plus s'est passée au meilleur niveau puisqu'elle a pris part au sein d'un festival en marge de d'Art Basel Paris au mois d'octobre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait?
Tout à fait. Le point de départ. Comme souvent, c'est un petit peu une coïncidence ou un peu un geste de hasard. Un artiste de la région qui n'est pas africain et qui fait une œuvre très belle, qui s'appelle Julien Desmontiers, me présente une commissaire aussi de la région, de Tours, qui est en charge d'un programme lié à la décentralisation des œuvres du Centre Pompidou pendant sa fermeture, de manière jointe avec la région Centre-Val-de-Loire, pour mettre en valeur l'art et la culture dans la région en partenariat avec le Centre Pompidou. Cette commissaire vient chez moi, je lui présente les œuvres et on se met d'accord de monter, dans le cadre de ce partenariat, une exposition d'art africain contemporain, à la fois au sein de notre propriété de grandes écuries que nous avons, et au village de Saint-Épin. Beaucoup de questions se sont posées et tu en as déjà levé, toi, beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre de manière un peu chronologique. Et je dirais que d'emblée, s'est imposé deux choses très spécifiques. La première était de se centrer sur l'art africain contemporain, qui n'est pas un art qui a été montré souvent dans les régions françaises et en l'occurrence dans la région Centre-Val-de-Loire, dans les Pays de la Loire, oui. Et d'apporter cet art à un public qui est aussi un public tout à fait différent du public typique des musées, des institutions culturelles telles qu'on peut avoir à Paris ou dans d'autres grandes capitales à travers le monde. Et cette dynamique-là, d'emblée, a été très intéressante parce qu'elle nous a forcé à penser, et c'est là aussi où cette question d'exposer, mais d'exposer, c'est aussi c'est de montrer et de partager, c'est vraiment imposé à nous. Et pour moi, c'est à ce moment que je me suis rendu compte, même si c'est quelque chose que j'ai prouvé avant, à quel point cette opportunité de pouvoir exposer est quelque chose d'extraordinaire, puisque et quelque part l'acte de collectionner, c'est un acte d'accaparation. On achète des œuvres et puis ensuite on les met chez soi. Certaines personnes les mettent même dans des garages, dans des entrepôts, puisque certains collectionneurs ont trop d'œuvres pour pouvoir toutes les montrer. Donc il y a cet acte un petit peu égoïste d'accaparation. Et l'exposition, c'est l'inverse, c'est ouvrir et pouvoir montrer à l'autre des choses fortes que l'on a accumulées et donc constituées en collection à travers les années. Et nous, cette question s'est vraiment posée puisque donc nous avons choisi d'exposer dans un terroir français. À la campagne, et dans le village de Saint-Épin. Donc moi, d'emblée, il était important.
Étranger, voilà, qui est complètement étranger à toute cette vogue de l'art contemporain. Vraiment, c'est pour eux, c'est une découverte. Je dirais que les gens qui vivent là-bas ne sont pas du tout exposés comme ceux qui vont dans les foires ou biennales à l'art contemporain africain. C'est une première.
Voilà, donc c'est une première et c'était aussi une gageure. Donc, pour réussir cette gageure, plusieurs choix ont été faits. Le premier, ça a été d'exposer pas uniquement chez nous, mais d'exposer, d'inclure le village de Saint-Épin et d'inclure trois lieux emblématiques. Le vieux théâtre de bois, qui a été un lieu très populaire au village, l'église et le nouveau musée de la prévôté qui a été créé assez récemment. Donc, cette intégration du village était quelque chose d'important pour nous, pour vraiment casser les frontières et ne pas, enfin voilà, que ce soit accessible au public de manière générale. Deuxième choix important, c'était de choisir un thème qui soit relativement lisible pour un public non aguerri à l'art contemporain. Et donc là, la commissaire a choisi de faire l'exposition sur le portrait. Alors au départ, j'étais un petit peu hésitant sur ce thème-là, car on a beaucoup parlé de la figuration noire dans les dernières années. Donc c'est un thème qui avait été quand même déjà pas mal vu et revu. Donc j'avais peur qu'on soit un petit peu dans certaines redites. Et en fait, suite à cela, donc on a fait un travail, comme tu disais, de vraiment de puiser dans la collection, de curation, etc. Et je me suis rendu compte que le croisement entre le thème du portrait et le thème de l'engagement allait donner une exposition très forte et qui s'est centrée sur la question de la représentation d'autrui et comment les artistes africains, en se réappropriant la représentation de soi, ont donné une légitimité très importante à ce que c'est se représenter à travers ses propres yeux et ne pas laisser le privilège de la représentation à un autre étranger. Et donc, au-delà de cette démarche qui a été vitale pour les Africains, il y a un message quand même totalement universel qui est celui de tendre une perche à ces populations qui peuvent être toutes populations marginalisées à un moment pour leur donner une légitimité d'être soi-même. Ce message-là,
c'était très réussi. Et en particulier, je pense que l'expérience d'installer des très belles œuvres du Sénégalais au Marba dans une église de Touraine, ça permet de créer ces formules d'hybridation visuelle qui sont vraiment au cœur du curating d'aujourd'hui, au cœur de la pensée contemporaine. Il faut essayer d'imaginer aujourd'hui ce que pourraient être de nouveaux ensembles, de nouvelles formules pour des églises contemporaines, pour des lieux saints ou autres, auxquels participeraient exactement comme Matisse en son temps a pu faire des vitraux dans le sud de la France. On peut imaginer demain au Marba faire des grands ensembles au moment des restaurations de lieux saints, d'églises. C'est très, très émouvant comme exposition. Et évidemment, tout le reste aussi. Mais bon, je te laisse poursuivre sur l'expo.
Non, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, c'est que quelque part, même au-delà juste de l'église, que je n'avais pas anticipé aurait cette force et la confrontation en fait entre ces portraits, cet art africain contemporain et les lieux patrimoniaux qui ont des centaines d'années placés là en Touraine. Et à quel point, en fait, il y a un mariage d'une justesse et d'une richesse incroyable qui ont fait de chacun de ces lieux, en fait, une expérience esthétique, personnelle, émotionnelle pour tous les visiteurs qui, je crois, a très bien marché. Et d'ailleurs, tu as découvert ce lieu de manière avec des yeux extérieurs. Et donc, je pense que tu en as fait l'expérience. Mais ce qui m'a aussi beaucoup touché, pour revenir au public, c'est qu'en fait, par chance, il y a des personnes du monde de l'art qui sont venues voir l'exposition, des directeurs de musées. J'étais ravi d'avoir le président du Centre Pompidou qui, lui aussi, je pense, a été séduit de voir ses œuvres dans ce contexte-là. Mais on a eu surtout un public. Alors, on a eu une longue semaine pédagogique avec beaucoup d'enfants du terroir qui sont venus. Et puis, on a eu un public local, à la fois du village, mais de toutes les communes alentours, des villes alentours, qui sont venus. Je me souviens même d'un moment où j'étais au bar tabac du village et où les gens parlaient de ça, parlaient de « Ah, il faut aller voir l'église, il faut… » Voilà, donc un peu une redécouverte du patrimoine à travers l'exposition. Et puis surtout de voir que les gens, alors, ils n'étaient pas captivés par toutes les œuvres, mais il y avait toujours quelques œuvres qui allaient les captiver. Et les gens passaient du temps, avaient envie de rentrer dans les œuvres. Et ça, c'était une expérience extraordinaire de voir un public qui n'est pas le public traditionnel de l'exposition d'art parisienne, je dirais, qui se plonge et qui, voilà, qui est emporté par, par les œuvres d'artistes. Là, je pense qu'on se dit que on a fait un bon choix. Enfin, voilà, que ces artistes-là sont des artistes forts. Ce sont des artistes qui parlent à tout le monde.
Qui ont leur part d'universalité. Alors, j'aimerais bien rembobiner un peu dans, dans l'autre sens. Tout à l'heure, donc, je parlais de ta façon de collectionner. Là, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais que tu reviennes en forme un peu de conseil à ceux qui éventuellement nous écoutent et aimeraient démarrer une collection. J'aimerais bien que tu donnes un élément sur comment est-ce qu'on réfléchit au budget qu'on va consacrer à l'art. Et j'aimerais que tu parles aussi de la question de la rapidité, parce que ce qui m'a toujours beaucoup frappé chez toi, et on pourra parler de l'exemple de cet artiste qu'on a découvert ensemble et voilà, et que tu n'as pas tardé à acquérir, alors que moi j'étais embourbée finalement dans un dans autre chose, hein. Moi, j'ai une pratique qui n'est pas celle d'un collectionneur. Et justement, je veux que tu expliques bien ce que c'est que de collectionner. Et je parle de l'artiste Alexandre Lenoir, qu'on a découvert ensemble. Et donc, j'ai vu comment l'acte de collectionner s'est noué entre toi et cet artiste. Mais j'aimerais que tu parles donc plus précisément de la question du budget, comment on conçoit un budget pour une collection, et la question de la rapidité. C'est quelque chose de très technique. Mais un collectionneur, il va, il voit, il décide, il achète. Et cette partition entre le moment où on voit et où on achète, c'est une partition excessivement rythmée. J'aimerais bien que tu nous expliques comment ça se passe. Et la relation, évidemment, avec la galerie, etc.
Oui.
Tu nous donnes tes secrets.
Très bonne question, parce que c'est effectivement les dynamiques auxquelles on se confronte en permanence en tant que collectionneur. Je dirais, sur le budget, bon, je n'ai pas envie de parler directement d'argent, mais je dirais que la question qui se pose quand même par rapport au budget, c'est… Alors, il y a deux questions. Une première question qui est celle de la contrainte. Je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir une certaine contrainte, ce qui est mon cas par mes moyens financiers de toute façon, mais ce qui va forcer quand même à être dans un choix et à être, à être discriminant dans ce que l'on va acheter. Et je pense que c'est une démarche, du coup, qui est différente quand on se fixe un budget prédéfini, plus ou moins, par rapport à celui qui aurait tellement d'argent que finalement, il peut collectionner de manière très large et du coup, de manière un peu plus financière, moins dans le regard et dans le choix personnel. Les œuvres qu'il veut avoir. Après, quand même, je crois que collectionner, il y a une part de passion et donc une part de boulimie. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais dit, voilà, bon, mes enfants viennent de naître, si j'achète entre 3 et 5 œuvres par an pour eux, ben, dans 20 ans, ils auront une collection de 60 œuvres, ce sera très beau, ce sera quelque chose de significatif, etc. Et puis, finalement, ben, je me suis fait prendre la main dans le jeu de ce monde-là. Et bon, j'ai acheté beaucoup plus d'œuvres que 3 ou 5 par an.
C'est plus 10, non ? C'est plus 10.
Et plus, oui. Disons que, par exemple, l'exposition que l'on a faite à Saint-Épin, on montrait 40 œuvres et c'est une sélection, une petite sélection de la collection, voilà. Oui. Mais donc, il y a aussi, voilà, quelque part, un collectionneur, c'est quelqu'un qui, parfois, a besoin de ne pas trop regarder au budget aussi parce que, quelque part, même si derrière, il va falloir se serrer la ceinture sans d'autres questions, Le choix du neuf s'impose au collectionneur. Et je pense que c'est ça un peu le vrai collectionneur, celui pour lequel, quelque part, acheter une œuvre, ce sera sacrifier d'autres choses dans sa vie quotidienne. Donc, il y a vraiment ce choix-là. Après, tu parlais de la question de la rapidité.
Rapidité, et oui.
Je dirais, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, et je dirais, souvent on me pose la question, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des œuvres que tu aurais voulu acheter, que tu n'as pas acheté, que tu regrettes, etc. Et effectivement, il m'est arrivé d'avoir des vrais coups de cœur pour certains artistes, de ne pas les acheter, parce que je ne sais pas pourquoi, je vais en nommer trois, hein, mais qui me viennent à l'esprit tout de suite et pour lesquels aujourd'hui, j'ai vraiment des regrets. Et donc, quelque part, je me dis, voilà, à un moment, quand. Bon, alors peut-être que c'est aussi parce que j'ai beaucoup vu d'art africain contemporain, donc maintenant je connais, je sais ce qui me plaît en tout cas à moi, et puis je sais peut-être. Ce qui va rester, ce qui va marquer le monde de l'art. Mais je me dis que si je sens vraiment une impulsion forte, il faut y aller parce que voilà. Et donc je pense à comme artiste, je vais donner peut-être deux exemples. Tesfaye Urgesa. Je crois qu'on l'avait vu ensemble d'ailleurs à la Foire 154. Il avait montré une série de portraits. Voilà, et j'avais, je sais pas pour quelle raison, j'avais pas acheté. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un des artistes que je trouve les plus intéressants. Son prix est aussi dans les plus intéressants, donc on n'est plus du tout dans les mêmes niveaux de prix. Et quelque part, je me dis peut-être, voilà, j'ai loupé cette acquisition. Est-ce que j'ai besoin d'y retourner? Je sais pas. Je reviendrai sur cette question aussi. Deuxième artiste, Portia Zvahira,
qui est actuellement visible
à
la Fondation Vuitton
à la Fondation Vuitton, tout à fait. Ouais. Et donc, il y a sept ans, j'étais au Cap. Je vais dans sa galerie, qui est la galerie Stevenson, avec mes enfants, et je vois une œuvre magnifique de Portia. J'ai une photo de mon fils devant, on dirait, un grand bébé, un tout petit garçon, devant cette œuvre immense. L'œuvre était un peu chère. Elle était surtout très grande. Elle faisait 3,50 m, 4 m. Donc, j'ai hésité pour ces raisons, un peu de logistique, etc. J'ai décidé de ne pas l'acheter. Et aujourd'hui, voilà, c'est une de mes artistes.
Aujourd'hui, cette artiste du Zimbabwe est une artiste majeure. Donc, elle est à la Fondation Vuitton. Elle était à la Biennale de Venise l'an dernier. Et aussi il y a 2 ans, d'ailleurs. C'est une artiste majeure. Ouais. Donc, en tout cas, alors, ça prouve au moins une chose. Les regrets et les acquisitions prouvent une chose, c'est que le pif, comme on dit, ça se forme et ça s'affine. Tu dirais qu'aujourd'hui, sur ta collection, un jour, un grand... Le patron d'une maison de vente me disait que bon, souvent le ratio œuvre excellente, œuvre mineure à oublier est pratiquement de une œuvre majeure sur 9 qui sont à oublier. Est-ce que tu valides ce ratio ou pas? Ou est-ce qu'il est meilleur chez toi dans ta collection?
Je ne le valide pas du tout.
Ah, mais tant mieux.
Non, donc parfois, je regarde quand même un peu le catalogue des œuvres que j'ai pu acquérir. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce ratio, pour moi, il est plutôt de 2%. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'œuvres qu'aujourd'hui, dont je pourrais me dire que je pourrais m'en débarrasser aujourd'hui. Enfin, qu'elles n'ont pas m'en débarrasser, mais qu'elles n'ont pas leur place dans ma collection.
Oui. Elles pourraient être... Tu les assumes toutes. Oui.
Oui, alors après, même ça pourrait être des œuvres de très grande valeur, des œuvres très fortes, mais qui n'auraient pas leur place chez moi. Mais il y en a. Enfin, j'étais content de voir que voilà qu'il y en avait peu. Et d'ailleurs, dans l'exposition Africa Everywhere, un des points importants, c'était de montrer des artistes de tout niveau, c'est-à-dire des artistes très émergents, des artistes qui aujourd'hui sont beaucoup plus établis, et comment dans cette confrontation, en fait, tous les artistes se tiennent, enfin,
quelque
ont
chose
tout à
à
fait
dire,
leur place.
Absolument. Ouais.
Et donc, je trouve qu'il n'y avait pas tellement de points faibles dans l'exposition. On ne se disait pas, oui, alors là, évidemment, on a Derek Adams qui est représenté chez Gagosian, qui a eu tellement d'expositions en musée. En face de lui, on a des artistes moins établis. Alors, évidemment, Derek Adams va dominer la scène. Mais en fait, il y avait un vrai dialogue, il y avait une force dans toutes les œuvres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais je voulais revenir peut-être sur la question du budget. Parce que je crois qu'il y a aussi quand même deux manières de collectionner. Une manière est d'acheter des artistes qui ont été quand même bien identifiés par des galeries, bien établis, dont la cote est de fait plus élevée. Et donc de se positionner sur des artistes voilà, qui sont des artistes chers, mais pour lesquels on a une certaine certitude de leur place aujourd'hui dans l'art contemporain. Et je connais certains collectionneurs qui, effectivement, ont cette démarche-là. Donc, on va chez eux, on a un ensemble d'œuvres d'artistes qui sont tous des artistes très réputés, qui ont leur place dans de nombreux musées, etc. Et cette question s'est posée à moi. Alors, évidemment, on voit, donc il y a la question des regrets. Donc, ces artistes qui sont aujourd'hui, voilà, qui sont très établis, qu'on a loupés au début de leur carrière. Je crois quand même que pour moi, et c'est une réflexion que je me suis faite plus récemment, les avant-gardes, les artistes émergents, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et ça m'intéresse pour plusieurs choses. C'est quand même cette passion de la découverte et donc de découvrir un très jeune artiste, un artiste qui commence à émerger sur le marché de l'art, d'aller le voir dans son studio, d'avoir accès à à une pépite qui est encore tout juste à découvrir. C'est quelque chose, je pense, en tout cas dans ma démarche personnelle, d'assez exceptionnel comme sentiment. Et donc, c'est quelque chose que je souhaite poursuivre. Et puis, c'est aussi la capacité de soutenir certains artistes. Ce n'est pas facile pour tout le monde, surtout au début de leur carrière. Et donc, en leur achetant des œuvres, en les soutenant, en les présentant à d'autres collectionneurs, à des commissaires d'exposition, etc., c'est aussi une manière de les soutenir. Et ça, c'est un volet qui pour moi, est important également.
Alors, pour finir sur un dernier mot, parce qu'on est déjà à la fin de cet épisode, quel est ton prochain artiste? Quel est le prochain artiste qui va rejoindre ta collection? Alors.
Ah, j'ai des petites idées en tête, mais je ne suis pas sûre de vouloir les dévoiler.
Alors, quel est le dernier en date à avoir rejoint la collection, en tout cas?
Voilà, je vais parler de Kelvin Hazel. Qui est un artiste entre la figuration et l'abstraction, quand même un artiste plutôt abstrait, que la galerie 1957 a découvert avec Marwan, qui l'a mis en avant, qui lui a fait une très belle exposition suite à une résidence. Il est ensuite aujourd'hui rentré dans la galerie Farah Fakhri à Abidjan. Où il a eu également une très belle exposition. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir avoir deux œuvres de lui. Et ce sont des œuvres qui sont à la fois abstraites, qui ont beaucoup de sens, puisque l'une des œuvres que j'ai acquéries rappelle le radeau de la Méduse, donc ces espèces de bateaux perdus dans le flot de l'histoire et de la société. Donc voilà, et c'est esthétiquement aussi un coup de cœur. Donc là, j'espère, si j'étais passé à côté, je pense que j'aurais regretté cela dans 10 ans. Et donc, je suis très content.
En tout cas, coup de cœur partagé, puisque j'ai aussi prévu de le mettre dans le numéro de décembre. Donc tu vois, on se retrouve toujours sur la belle peinture. En tout cas, merci beaucoup, Rodolphe, pour ce moment d'échange. C'est très passionnant.
Merci pour tout le travail que vous faites chez Diptyque. Je pense qu'une chose qui manque quand même sur le continent, c'est tout ce travail critique, journalistique, documenté et passionné comme celui que vous faites. Et donc vraiment, vous êtes Vous êtes très, vous jouez un rôle très important et le magazine est magnifique. Donc, merci pour
merci
votre travail.
Merci beaucoup. Merci, Rodolphe. À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Un immense merci à notre invité d'avoir pris part au podcast Diptyque et un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre soutien continu. Si cet épisode vous a captivé, nous serions ravis d'entendre vos impressions sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Le podcast Diptyque est rendu possible grâce au généreux soutien de Maroc Télécom. Il est produit par Aros Konpoyo, montage assuré par Simo Bakrim. Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca, au Maroc. Vous trouvez le dernier numéro en kiosque partout au Maroc, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter hebdomadaire online sur www.diptyquemag.com. À bientôt pour le prochain épisode.